Alors, ça va vous faire en même temps rappel de choses qu'on a faites aujourd'hui. Et puis en même temps, deux, trois petites choses nouvelles, peut-être. Alors, et le diaporama sera dans l'espace ressources. Donc j'ai repris la question de Simon de ce matin comme titre, parce qu'effectivement, je pense que c'est bien ce à quelles conditions qui nous intéresse. Et non pas que pour ou contre la vidéo dont on se contrefiche. Et je vais repartir de questions de formation. Ce qui nous intéresse, je vais très vite là, mais c'est juste pour nous remettre en contexte. Comment ça marche l'activité enseignante? Comment ça se développe? Comment ça se développe au sens comment ça bouge? Si Roland Guagou, qui est dans la salle d'à côté, était là, dirait, moi je dis pas développe, je dis apprendre. Comment les gens apprennent-ils du métier? Qu'est-ce qui se fait qu'il y a des enseignants qui ont 2 ans de métier, on a l'impression qu'ils savent déjà tout, et il y en a d'autres, ils ont 25 ans de métier, on a l'impression qu'ils ont toujours pas bien appris. Et du coup, nous, si on est formateurs, comment on fait pour nourrir l'activité? Mais pour ce qui nous rassemble ici, on part du principe que le moteur, ce qui fait que les gens font des choses, ce qui fait que vous faites des choses, que moi je fais des choses, c'est vraiment l'activité qui est moteur dans le travail. Et du coup, je vais reprendre la question de Simon. Je l'ai remise, sa diapo. Quand on est en formation, on est toujours partagé entre ça. Hein, c'est rappel. Si vous venez en formation et qu'on ne répond pas à vos questions, vous direz « cette formation était nulle ». Et en même temps, si on ne vous fait pas poser des nouvelles questions, si on ne vous fait pas éprouver le fait que si vous essayez des nouveaux trucs, alors il va se passer des choses dans votre cerveau à vous qui vont vous faire comprendre des nouvelles choses. Ben voilà, toute la difficulté de notre boulot, elle est dans cette tension entre ces deux choses. Et du coup, le formateur, je vais reprendre là des choses qu'ont dit Frédéric Yvon. C'est quoi le job du formateur et en quoi le formateur il a besoin de la recherche? Alors, moi j'ai une position un peu compliquée. Alors d'abord, je ne suis pas chercheur, donc ça me donne beaucoup de facilité pour dire du mal des chercheurs. Donc moi, je suis, on va dire, quelqu'un qui essaye de faire des ponts, qui est peut-être côté ingénieur. Hein, il y a la chimie du fer d'un côté, puis il y a construire des ponts de l'autre. Et dans le travail qu'on fait ici, on essaye de faire l'articulation entre la recherche, les recherches, les métiers et l'activité de formation. Au sens didactique professionnel, tel que l'a dit Frédéric tout à l'heure, la didactique professionnelle, elle essaye de comprendre le travail pour fabriquer de la formation. En disant, on ne peut pas faire de formation si on ne comprend pas le travail des gens. Du coup, vous en tant que formateur, broker, disent les anglo-saxons, on doit 10 fois aller chercher des choses dans la recherche pour comprendre ce qui nous arrive. Et puis on doit aussi aller chercher dans le métier pour comprendre ce qui se passe dans le métier pour construire des situations de formation. Donc tantôt vous devez découper, tantôt vous devez rassembler. La recherche, elle c'est simple, elle découpe. Alors, de quel savoir vous avez besoin quand vous êtes formateur d'enseignant? Je redis ça parce que je ne voudrais pas qu'ici, on croit que l'analyse du travail est l'alpha et l'oméga de ce dont a besoin un formateur. Donc je le dis une fois. Je pense que, comme ça a été dit ce matin par quelqu'un, toutes ces disciplines sont nécessaires aux formateurs. Mais comme a dit Simon, si on attend d'être formé dans toutes ces disciplines pour devenir formateur, on va être vieux. Et des gens ont dit dans les ateliers, mais moi je commence à agir déjà, et puis c'est en agissant que je me forme. Donc, bien évidemment, toutes ces disciplines, elles vous concernent, elles nous concernent. Et quand on est formateur, on ne peut pas dire juste, moi, la psychologie cognitive, j'en ai rien à foutre. Quand on est chercheur, oui, on peut dire, ouais, peut-être que la psychologie cognitive, c'est intéressant, mais moi, ce n'est pas mon objet. D'accord ? Après, il peut y avoir là-dessus de l'idéologie. Il peut y avoir des gens qui vous disent, moi, n'est-ce pas, en tant que chercheur en neurosciences, par définition, comme je vois le cerveau qui s'allume, je sais tout. Et là, en tant que ayant lu de la sociologie, je peux dire à cette personne, je pense que tu te gourres. et que ce n'est pas parce que tu vois le cerveau qui s'allume que tu comprends quelque chose à ce qu'est l'école. Et encore moins à ce qu'est l'enseignement. Mais si j'ignore ce que disent les neurosciences, il va quand même me manquer des éléments de choses. Alors, ça se complique parce que là-dedans, il n'y a pas du tout les questions qui nous outillent aujourd'hui, qui seront autour de l'analyse du travail. Mais l'analyse du travail, elle-même, elle se découpe en plein de courants. Je vous les cite là, pas pour que vous les appreniez par cœur, mais pour bien que vous compreniez que quand ces gens-là se rencontrent, ils s'engueulent. Et quand ils sont réunis dans le groupe de scientifiques de Néopas, quelqu'un qui est dans l'entrée Thoreau, il va dire à quelqu'un qui est dans l'entrée Claude, non mais c'est n'importe quoi tes dilemmes, excuse-moi. Hein. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est les configurations typiques d'activité. Et donc, il y a des grandes discussions entre ces gens-là. Par contre, il y a des choses qui les rassemblent. C'est que dans toute activité humaine, il y a du social, il y a des instruments. Alors, j'ai rajouté à ma diapo, suite au magnifique triangle qu'a fait Frédéric ce matin, j'ai rajouté ça. C'est Roland Guagou qui est l'auteur de ce modèle, qui dit que toujours quand on essaye de décrire le travail, il y a plein de focales enchâssées, et qu'en fait, selon l'endroit où on est, on ne regarde pas la même chose. Si je me mets juste là pour regarder l'activité de l'enseignant, je vais surtout regarder l'activité de l'enseignant. Mais ça n'empêche pas que le savoir existe, que les élèves existent, que les instruments existent. Si je me mets là pour regarder, peut-être plus dans une perspective, par exemple, psycho-cognitive, hein, ou même sociologique, je vais dire, tiens, qu'est-ce qui se passe pour les élèves quand ils sont confrontés au savoir et à l'enseignement et aux outils? Et puis si je me mets du côté conception d'outils, je vais me mettre ici et je vais dire, je disais que j'avais modifié ça, Frédéric, et que j'ai rajouté ça ce matin quand on a parlé. Donc, si je m'intéresse à la conception d'outils, je vais dire comment est-ce que je fais pour que les outils que je fabrique soient maniables par les enseignants pour permettre d'approprier du savoir à des élèves. Vous voyez, selon l'endroit où on est, on ne va pas du tout regarder la même chose. Mais en tout cas, ça c'est un défi pour la formation et pour les formateurs. Alors, pourquoi c'est un défi ? Il me semble que, avant que je vienne à mon sujet, il faut bien qu'on comprenne que... Alors prenons par exemple un débutant, hein, en haut. Mais on pourrait prendre un expérimenté, mais avec un débutant, je pense que c'est encore plus fort. Un débutant, il arrive dans une école, et puis il entend trois choses. Il entend le discours de l'institution, qui lui dit « Monsieur, il faut être éthique et responsable. Il faut suivre les programmes. » Il faut écouter les parents d'élèves, il faut être respectueux de tous, non discriminant, voilà. Et puis il faut faire que les élèves ne redoublent pas, que vous les évaluiez par compétences et que de préférence tous vos élèves réussissent et que vous ne les fassiez pas redoubler. Merci, à bientôt. Ils ont un discours de la formation. Ce discours de la formation leur dit, tu sais, l'apprentissage est socio-constructiviste, il faut que l'élève soit acteur de son savoir. Mets-les en groupe, fais-les travailler ensemble, fais-leur des situations problèmes, outille le cognitif, le langagier, pense à Bernstein, c'est très important. Et puis, il a des discours du métier qui lui dit si tu veux avoir la paix avec les parents d'élèves, essaye de conduire ton rang comme il faut jusqu'à la grille, parce que sinon, tu vas juste avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas faire son boulot. Et si c'est possible aussi que tu essayes de parler moins fort, parce que moi je suis de l'autre côté du mur, et c'est compliqué. Alors, derrière cette blague, vous comprenez bien qu'un enseignant, il est confronté à des normes. Je blague, mais chacune de ces normes, elle a sa cohérence, elle a sa véracité, elle a son utilité. Simplement, il faut que vous compreniez que vous êtes quelque part dans cet espace-là, en tant que formateur. Vous n'êtes pas un neutre. Vous n'êtes pas un sachant. Vous êtes quelqu'un qui est quelque part. Et pour le coup, vous êtes situé. Je donne un exemple. Vous écoutez vos stagiaires qui vous parlent. Ils vous disent « J'aimerais que la formation réponde à mes problèmes. Je suis sans arrêt dans l'urgence, je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu as des trucs, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais me donner des conseils? Pourquoi personne ne m'explique ce qu'il faut faire? Je ne vais pas y arriver avec les parents. Non, l'évaluation formative, je ne peux pas, les référentiels, c'est l'enfer. Je ne dors plus, je ne vais plus au cinéma. Ma copine va me lâcher. Je n'en peux plus. Et vous, vous traduisez. Vous avez raison, bien sûr. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, il va y avoir un problème de connexion entre vos deux activités. Alors ça, c'est juste le début, mais je l'ai rajouté, tout ça, je n'avais pas prévu de vous le dire, mais il m'a semblé que du coup, puisqu'on a beaucoup parlé de ça, c'est très intéressant. Et du coup, si on se met à discuter sur c'est quoi former un débutant, un modèle RIA et compagnie, hein. Un débutant, c'est quelqu'un qui est essentiellement préoccupé d'abord par comment je conduis et je maîtrise le groupe. Au début, ça l'occupe à 100% du processeur et souvent le processeur chauffe. Puis, progressivement, il va se rendre compte, ou pas, que si c'est la pagaille, c'est pas juste parce qu'il y a eu piscine avant, c'est parce que il n'a pas fait le lien entre ce qu'il a préparé et ce qui se passe. Il a préparé des choses pour les occuper, mais il n'a pas tout à fait compris que s'ils sont éventuellement perturbés, s'il avait préparé différemment, alors il se passerait quelque chose de différent à ce moment-là. Il n'a pas tout à fait forcément attrapé au début que la planification didactique, ça va aider les enfants à s'engager dans la tâche. Il n'a pas tout à fait compris qu'il y a des choses qu'il a prévues et il va falloir qu'il réagisse en vol. Il a prévu qu'il allait se passer ça et ce n'est pas ça qui se passe. Et donc, comme ce n'est pas ça qui se passe, il faut qu'il arrête de faire ce qu'il avait prévu et qu'il fasse autre chose. Mais réagir en vol quand il y a un orage, c'est très compliqué. Et ça arrive progressivement, mais pas au début en tout cas. Et puis souvent, il a du mal à se rendre compte que tous les élèves qu'il y a dans cette classe ne sont pas les mêmes. Et donc pour lui, la question de comment je vais me débrouiller pour ne pas traiter tous les gamins pareils, c'est une question qui va venir tardivement dans son apprentissage, dans son expérience. Parce que d'abord, voilà. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que si vous faites de la formation pour les débutants, vous avez deux problèmes. Souvent, on va vous demander de les évaluer. Et je suis sûr qu'on vous demande de les évaluer avec un référentiel de compétences. Et je vois à votre tête que vous dites oui. Et ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible ce qu'on vous demande? Parce que vous, vous avez envie d'accompagner et d'évaluer votre débutant autour de ce que vous connaissez être ses points chauds. Parce que ce que je vous montre là, vous le savez pertinemment, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je vous montre juste que si vous l'évaluez avec les outils du référentiel de compétences, pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous n'évaluez pas ce sur quoi vous travaillez avec lui. Je vous montre ce que des formateurs ont fait à partir de ce travail-là. Ils disent, puisque la difficulté de l'enseignant, c'est conduire la classe, réguler pendant l'activité, planifier, anticiper, ben on va faire un outil d'accompagnement avec lequel on va pouvoir discuter avec lui pour pouvoir à la fois lui faire mesurer ses progrès et puis à la fois, nous aussi, pouvoir rendre compte de l'évolution de ses progrès. Je montre ça tout à l'heure à mon collègue et il me dit « Regarde, nous c'est ça qu'on fait. » Et il dit « Ça a vachement de succès parce que depuis qu'on a mis ça sur notre site internet, on a beaucoup, beaucoup augmenté la fréquentation de notre cycle, de notre site internet parce que simplement on a essayé de réguler une graduation qui nous permette de dire « Tel geste inadapté, intuitif, opérationnel, compétent. » Vous voyez comment ça, donc Gaudin, Perrault, Chaliès, il vous en reparlera peut-être demain, c'est des outils qui vont permettre de décrire l'activité, planifier, avoir une démarche de développement professionnel, mise à distance, coopérer. Ces descripteurs de l'activité, c'est des outils aussi pour vous. Alors, si je reprends, et je vais arriver à ma grammaire. Si je reprends les dilemmes dans lesquels vous êtes en permanence, mais c'est parce qu'on identifie ces dilemmes qu'on peut identifier quelle est la nature de l'activité que vous pouvez avoir en formation. Parce que si on pense que vous n'avez pas de dilemme, et là je rattrape mes approches théoriques à moi, qui font que travailler c'est arbitrer entre des dilemmes. Chaliès, dans la revue qu'il avait faite en 2008, alors maintenant Chaliès pense que ce truc-là est dépassé, mais moi je suis vieux donc je trouve que ça va pas mal. C'est que vous êtes, en gros, Chaliès disait, entre trois dilemmes. Est-ce que je suis là pour les aider? Est-ce que je suis là pour les évaluer? Est-ce que je suis là pour transmettre le métier ou faire réfléchir sur le métier? Et là c'est très intéressant parce qu'on retrouve, est-ce que vous êtes du côté du métier ou est-ce que vous êtes du côté de la formation? Et donc la formation, des fois, c'est un espace de prescrit, hein. Non, sois un peu plus socio-constructiviste dans ta classe, camarade. C'est pas facile. Et donc, du coup, dans votre activité à vous, est-ce que vous allez focaliser davantage sur « je te dis que c'est pas bien ce que tu fais parce que les élèves, ça va pas » ou est-ce que vous êtes sur « ah oui, je comprends pourquoi ce que tu fais, tu le fais puisque il y a des choses qui te préoccupent dans le travail. » Ça va ? Et vous êtes toujours tendu dans ces trois choses-là. Du coup, il y a une activité qui est très intéressante et qu'on a beaucoup fait et qu'on continue à faire, c'est quand on est entre formateurs, regarder une situation de classe, regarder un entretien, c'est un travail que j'ai fait dans l'Ardèche, et à partir de ça, faire discuter des formateurs sur quand tu vois la séance, quand tu vois l'entretien, est-ce que tu ferais le même entretien que lui ? Levez la main les gens qui ont déjà fait ça dans leur travail de formateur. Voilà, 3. Merci. Et pourtant, confronter les conseils qu'on donne à un débutant, je vous garantis que c'est une activité assez sauvage. On est en train de travailler avec Chaliès et d'autres dans un nouvel étage de Néopass qui s'appellerait tuteur débutant. Quand cet espace sera disponible, vous aurez accès à une situation de conseil. On vous la filme. Puis, on vous montre ce qu'en dit le tuteur. Le tuteur dit « Ah oui, ouais, tu comprends, à ce moment-là, je lui disais ça parce que bon, là, je vois bien, il était d'accord avec moi, tu vois, je lui disais ça et quand même, j'ai raison de lui dire ça. » Et puis après, on a l'activité du débutant qui nous dit « Ouais, en fait, bon, je lui dis pas tout, moi, au formateur, parce que bon, c'est quand même lui qui m'évalue. Donc, je sais pas si je peux aller jusque-là, je sais pas si je peux lui dire que je suis pas d'accord avec lui. » Et du coup, c'est très important d'utiliser ça quand on est soi-même formateur, et c'est la proposition qu'on vous fera avec cet étage de Néopass, de pouvoir travailler à comprendre pourquoi on peut être ou pas d'accord les uns avec les autres sur nos manières de faire. Regardez cette phrase de Clos. Donc c'est la secte dont fait partie initialement Frédéric Yvon. Encore que vous avez vu que maintenant il va chercher d'autres choses dans d'autres sectes, preuve de son propre développement. Est-ce que vous êtes un collectif ici ou est-ce que vous êtes une collection ? Vous avez vu que dans les ateliers, c'était pas facile quand quelqu'un faisait une présentation de lui dire écoute, Coco, t'es gentil, mais c'est pas du boulot ça. Quand vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec sa manière de faire, vous n'osiez pas forcément entrer en controverse avec lui en disant non, mais sauf si vous voulait juste prendre le pouvoir sur lui, mais on a dépassé ça. Et du coup, ce qui est intéressant, dit Clos, c'est de fabriquer des outils qui nous aident à discuter du boulot. Ça va ? Alors, ce travail-là, nous, on essaye de le faire régulièrement, et je vous présente maintenant les résultats de ce travail, qui ne valent que ce qu'ils valent, c'est-à-dire que ce n'est pas du travail de recherche. C'est du travail qu'on fabrique dans l'articulation des espaces entre le métier, la formation, la recherche, les recherches. D'accord ? On s'est dit, est-ce qu'on pourrait avoir l'outrecuidance de dire, voilà, nous, on va vous proposer un nombre de buts fermés en formation. En gros, une formation, ça peut être pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Eh bien, on essaye. Vous avez vu que ce n'est pas très modeste hein, comme position. Premièrement, une formation pour... Alors, je vais la lister sans trop donner d'exemples, parce que je pense que vous allez bien comprendre. Quand je dis une formation, ça peut être un bout de formation. Hein, ça peut être 2 heures sur une formation qui dure 6 heures. connaître le prescrit, savoir ce qu'il y a dans les programmes, qui n'est peut-être finalement pas aussi débile qu'on pourrait le penser et qui nous laisse des marges de manœuvre. Deuxième possibilité, partager des savoirs, des références théoriques. On vous fait venir un intervenant ici, un universitaire, il vous explique des trucs de sa recherche, il vous partage des bouts de son savoir. Troisième modalité qu'on peut utiliser en formation, on va essayer un outil. Catégo vient de sortir, on va travailler ensemble sur la philosophie de Catégo, et puis on se retrouvera dans 2 mois et on verra ce que vous avez fait de Catégo. Évaluer une action. On avait décidé que cette année, on allait se lancer dans un programme enseignement explicite pour tous. On revient sur ce programme et on dit, est-ce qu'on est capable d'avoir des résultats sur ce qu'on a essayé de faire ? Partager un projet. On a décidé dans l'école qu'on allait nourrir l'activité de production écrite à travers un journal scolaire. La formation, c'est fabriquer un journal scolaire. Identifier des problèmes de métier. On s'aperçoit que tous ensemble, on a des problèmes avec l'entrée en classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème de métier qui est entrer en classe et se mettre rapidement au boulot ? Un but, ça pourrait être aussi de se dire, ben voilà, on a une difficulté, mais on va déjà essayer de ramener le réel. On va aller chercher le réel et on va le remettre au milieu de la formation et on va essayer de le décortiquer. Faire la classe à cours double, ok, mais de quoi on parle ? Ben, on va ramener le réel en formation avec des vidéos, avec des traces, avec des enregistrements, avec des travaux d'élèves, avec des photos, avec que sais-je. Et puis, partager les métiers, partager le métier. On va mettre ensemble des ATSEM, des instituts de maternelle, des AVS. Et puis, on va essayer de voir en gros ce qu'on partage comme problème professionnel sur cette question-là. Alors, il y a un jeu qu'on aime bien faire quand on présente avec Simon cette modalité, c'est prenez les formations que vous avez animées dans les 2 derniers mois, essayez de dire s'il y a des bouts de formation que vous pourriez ne pas mettre dans un de ces espaces catégorisés, parce que vous voyez qu'on est là dans un outil pragmatique. Vous aurez le temps. Deuxième catégorisation, deuxième et dernière. Du coup, puisqu'on a des buts différents en formation, est-ce qu'on pourrait fabriquer un catalogue fini de situations dans lesquelles on essaierait de poursuivre ces buts ? Là encore, hein, vous voyez l'immodestie du projet. On en a proposé 9. 3 types de tâches dans lesquelles le but, c'est d'identifier, de scénariser, de mettre en visibilité les préoccupations des gens. Je te pose des questions. Alors, vous voyez, avec vous, on l'a fait. Vous avez très bien joué le jeu. 70 personnes, 52 personnes, c'est ça, qui répondent au questionnaire. 53. Et donc là, est-ce que le questionnaire fait partie du temps de la formation ? Bien évidemment, puisqu'il nous a obligés à réorganiser la formation. Une autre modalité, c'est on fait discuter des gens, en synchrone, en asynchrone, ou on organise des échanges de pratiques. Je mets un terme générique qui ne veut rien dire, mais c'est l'idée de tu viens raconter ce que tu as fait à des gens qui écoutent ce que tu as fait. Deuxième grand type d'activité. Des activités dans lesquelles on va, alors moi je dirais documenter, on va mettre les gens en recherche, on va mettre les gens à observer in situ ou sur des plateformes ressources pour qu'on puisse documenter les questions qu'on se pose. Hein. On a une question sur l'entrée en classe, ok. On va faire des recherches, on va aller voir des entrées en classe dans la vraie vie, on va regarder des plateformes, on va aller voir la BSD, on va aller voir différentes plateformes qui vont documenter ces choses-là. Et troisième type de tâche, alors je ne suis pas sûr que ce soit de la même catégorie, mais il fallait bien que je me débrouille avec 9. On va faire des choses aux gens, où on va leur expliquer des trucs. Et en sachant qu'on ne met pas forcément d'hierarchie dans les modalités. Donc, voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Alors, du coup, notre modèle, une fois qu'on a tous les constituants, c'est d'oser dire, finalement, qu'est-ce que ça serait une dynamique de formation ? Alors, pourquoi je dis hybride ? Parce que hybride, le mot est partout, et il faut l'utiliser, même s'il n'est pas utilisé que par nos amis. Très clairement, le mot hybride, si on comprend égal technologique, pour nous, la définition n'est pas bonne. Dans le mot hybride, on va retenir la définition de alternant des modalités différentes. Du coup, je reprends très vite le modèle de Simon. Le temps de la mise en œuvre n'est pas le temps de la conception. Et donc, je le mets ici pour mémoire, mais peut-être que on a vu, en tout cas dans les ateliers dans lesquels j'étais, que ce temps de la conception, il était parfois long et coûteux. Ce qui est intéressant là, c'est que on va définir une formation par un processus, par un temps, par un but et par différentes étapes. Du coup, on va mobiliser les petits éléments de notre grammaire et on va dire, prenons une formation par exemple. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre avant le présentiel pour identifier un problème ? Peut-être je vais leur montrer, je vais leur dire « Regardez cette vidéo et parlez-moi-en ». Ou peut-être je vais leur dire « Ici, remplissez-moi ce questionnaire ». Puis, dans le présentiel, on va identifier une question. Puis, on va demander aux gens d'aller regarder un bout de plateforme. Puis, on va faire un retour sur qu'est-ce que vous avez compris des vidéos de la plateforme. Puis, on va leur demander d'aller regarder dans leur école comment ça se passe, ces trucs-là. Ces questions de la discipline, de la perturbation scolaire, de l'entrée en classe, de l'apprentissage des maths au CE2. Et puis, éventuellement, on fera des enrichissements. Alors, évidemment, selon votre conception de la formation, peut-être que vous direz, non, l'enrichissement, il faut le faire au début. Parce que c'est ça qui va outiller les gens. Et puis, d'autres diront, non, il faut déjà qu'ils fassent leur expérience, qu'ils aillent voir des choses, etc. Là, vous allez avoir des doxas, vous allez avoir des croyances, vous allez avoir des valeurs de ce que c'est la formation. Et évidemment, vous allez pouvoir en discuter entre vous, entre formateurs. Ce qui nous intéresse, c'est que quand on montre ce modèle-là depuis 3 ans dans les formations qu'on mène, soit ici, soit avec les formations qu'on mène dans les académies, avec les conseillers pédagogiques, les formateurs, les tuteurs, c'est qu'on voit beaucoup de formateurs qui réutilisent ce modèle. Et donc on se dit, par rapport aux critères de Simon, utilisabilité, cette grammaire, elle a l'air de fonctionner puisque les gens s'y retrouvent en disant, ça nous permet de décrire notre action. Si je vous montre des parcours de formation plus de maîtres que de classes que je suis en train de finir, je commence comme ça maintenant. Et je me dis, le parcours, on va le faire comme ça. Ça peut permettre aussi des petites choses qui sont intéressantes, c'est d'identifier les passages à risque. En rouge, passage à risque formateur. En jaune, passage à risque stagiaire. On a eu une longue discussion sur passage à risque, filmer quelqu'un, passage à risque, point d'interrogation, pour qui, point d'interrogation. Envoyer un questionnaire, passage à risque, et qu'est-ce que je vais faire avec le questionnaire ? Et typiquement, là, nous, on a appris des choses qui étaient contre-intuitives, par exemple. Faire regarder des vidéos à des gens avant une formation. Avantage. Ils regardent la vidéo avant la formation. Ça bouffe pas de temps sur la formation. On leur demande d'envoyer ce qu'ils ont compris de la vidéo. Ah oui, mais là, inconvénient. Voilà, ils vont me dire tout ça de la vidéo. Qu'est-ce que je vais en faire ? Nous, on se dit, il vaut mieux qu'ils te le disent avant que pendant. Parce que s'ils te le disent pendant, il faudra que tu sois un formateur très expérimenté pour réagir en vol à tout ce qu'ils vont te dire sur la vidéo. S'ils te l'ont dit avant, finalement, ça va te demander du boulot, mais tu vas pouvoir anticiper la manière de travailler sur ces questions-là. Dernière chose qu'on voudrait vous donner maintenant, à partir de qu'est-ce qui peut nous aider lorsqu'on fait travailler des gens sur des vidéos. Et là encore, vous allez dire à quel moment on peut le faire, soit pendant, soit avant, soit après, soit dans 2 sessions. On reprend là une typologie qui a été faite par Valérie Lucie, par Roland Guagou, qu'on a remise à notre main, en disant travailler avec des vidéos, avec des personnes, c'est en gros 4 étapes. On n'est pas obligé de passer par les 4. Frédéric nous a dit qu'il y avait différentes modalités. Mais il nous semble que cette règle d'action, elle peut vous garantir pour éviter de faire des choses dangereuses. Parce que tout le monde a vu qu'on peut faire des choses dangereuses avec la vidéo. Soit surnormer, soit dire... Et on sait que ça existe. Hein. On connaît des formateurs qui prennent les vidéos de Néopass simplement pour dire à leur stagiaire « Non mais... » Et ça, on sait que c'est pas bien. Non seulement parce que c'est pas ça qu'on veut, mais on sait que c'est pas bien pour les stagiaires. Parce que ça suffit pas à ce que ça se fasse efficace. Donc on dit, faites 4 choses. Et ça a déjà été dit. Hein. Passez du temps à les faire décrire. Interdiction d'analyser, de commenter, de controverser. Non, vous décrivez. Et là, ah oui, tiens, il y a une boîte devant, tiens, les gamins sont mal assis, tiens, la maîtresse parle comme si. Deuxièmement, ensuite seulement, une fois qu'on a tout décrit, essayez d'interpréter. Mais essayez d'interpréter en postulant la cohérence. J'essaye de penser qu'il fait ça parce qu'il a de bonnes raisons de le faire. Et là, si vous utilisez des vidéos d'auto-confrontation ou d'allo-confrontation, mais la parole des personnes est très intéressante. Je ne reprends pas l'exemple qu'a donné Frédéric, mais j'ai eu exactement le même. Tout un paquet de formateurs réunis, on leur montre une vidéo avec une classe dans laquelle l'enseignante met au travail ses élèves très vite pendant qu'elle fait l'appel. Et là, vous avez tous les formateurs qui disent « Non, mais n'importe quoi, là, les gamins, ils sont en multitâche, on ne sait pas où ils vont. Non, bon. » Et puis, sur 25 formateurs, il y en a 2 qui disent « Avant de donner mon avis, je voudrais bien savoir ce qu'elle pense, de pourquoi elle fait ce qu'elle fait. » Et quand on entend la collègue et qu'on comprend ce que j'appelle ses mobiles d'action, alors on se dit qu'elle n'est pas juste débile. Et du coup, on est obligé d'être un tout petit peu différent dans sa posture pour pouvoir rentrer en communication avec elle. Et du coup, on va essayer de se dire, si elle fait ça, qu'est-ce qu'elle gagne et qu'est-ce qu'elle perd? Et si je lui demandais de faire autrement, qu'est-ce qu'elle gagnerait? Mais aussi peut-être, qu'est-ce qu'elle perdrait? C'est ce que Roland Guagou dit sous cette forme. Souvent, quand on est formateur, on dit, regarde, tu vois, tu fais ça. Enfin, franchement, tu ferais ça. Ce serait beaucoup plus efficace. Mais Roland Guagou dit qu'on oublie de dire que cette alternative qu'on te propose, elle aurait un coût. Et que ce que tu fais là, en ce moment, ça a un gain. Ça peut permettre que tu te reposes, que tu te fatigues pas trop, que tu puisses continuer à faire classe demain, que tu puisses aller au cinéma avec ta copine, tout un tas de choses qui sont pas complètement inutiles. Du coup, enfin seulement, argumenter, mais ne pas oublier que quand on sera dans cette argumentation-là, souvent, on va confronter des doxas. Ah ouais, tu me dis que c'est plus efficace de mettre les élèves en groupe. Eh bien, il va falloir argumenter, parce que moi, souvent, quand je mets mes élèves en groupe, t'es gentil, mais c'est beaucoup plus le bordel et ça me fatigue beaucoup plus, pour pas grand-chose à la fin. Alors, du coup, je donne ce petit modèle, qui vaut ce qui vaut. C'est le fruit d'un travail que j'avais fait quand moi-même, j'ai fait le parcours de master formation de formateur à Clermont-Ferrand. Finalement, faire de la formation, on est loin de la vidéo, mais la vidéo pour nous ne vaut que si on place ça dans un contexte général. C'est d'abord se dire que ce qu'on va travailler en formation, c'est bien un objet de la difficulté professionnelle. C'est pas juste parce que c'est la mode de faire ça, c'est parce que c'est une question professionnelle. Et parce que c'est une question professionnelle, c'est pas sûr que le formateur ait toutes les réponses. Et donc, dans la formation, on va se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans les cinq dimensions ? Première dimension, aller chercher le réel, ramener des traces, des évaluations, des vidéos, des travaux d'élèves, etc., qu'on va ramener dans la formation pour pouvoir parler du réel. Se demander ce que le prescrit nous donne à faire sur cette question-là. C'est quoi les 10 principes qu'il y a dans le référentiel plus de maîtres que de classe de la DGESCO ? Oser les outils. Alors je le dis comme ça, présenter ce qui existe, faire à la manière d'eux, compiler, piller, se dire, je fais une formation de formateur, il faut qu'on ose des outils sur, et vous, vous utilisez quoi pour évaluer vos stagiaires ? Il faut oser faire ça. Il faut avoir des moments dans lesquels des moments dans lesquels on va partager des références, on va se dire, oui, tout ça, c'est décrit par des univers théoriques, par des univers de recherche, et on va pouvoir croiser les lectures et les modèles explicatifs des difficultés. Et enfin, il va falloir, et c'est pas le plus facile, accompagner dans la durée. C'est bien ça le problème. C'est ce qui met la souffrance chez les formateurs de plus en plus. Pour pouvoir faire que, moi je le dis comme ça, on soigne le collectif, on nourrisse la controverse, qu'on ne soit pas en tant que formateur uniquement du côté des bonnes pratiques, mais qu'on soit dans comprendre les différentes manières de répondre à une question qui se pose dans le métier pour construire bien évidemment des réponses pédagogiques opératoires. Je finis toujours mes présentations par ce petit diapo, donc il y en a qui l'ont déjà vu 20 fois. Yves Clos, qui est aussi dans les personnes qui m'ont nourri, nous dit que quand on travaille, en tant que formateur ou en tant que réparateur d'ascenseur, c'est pareil. Ce qui est compliqué dans le boulot, c'est de se dire que ce qui m'arrive, j'y peux quelque chose. Même quand le travail est mal foutu, même quand on a l'impression que c'est de pire en pire. Et que si jamais ça vient indépendamment de moi, ce qui risque d'arriver, c'est que je sois désaffecté, désœuvré au sens strict, sans œuvre, sans opéra, sans travail à faire, qui nourrit mon activité. Et donc là, il y a un vrai risque de maladie professionnelle qui s'installe. Et donc, la question étant, pour les formateurs de formateurs, comme pour les enseignants, comme pour n'importe quel métier, de se dire qu'on a bien raison de faire ce qu'on est venu faire ici, c'est-à-dire de chercher ensemble à faire ce qu'on n'arrive pas encore à faire. Et c'est bien parce que c'est un problème de métier que ça vaut le coup de s'y attaquer pour développer le métier et pour éviter de le nécroser. La formation est attaquée aujourd'hui, beaucoup attaquée, mais la défendre, c'est déjà s'attaquer au problème qu'elle rencontre pour nourrir son activité, de l'activité des gens qu'elle forme. J'ai fini.